J'aimerais parler sur les tests de David dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 12. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ses 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Éliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Amen. Nous savons que David a écrit de nombreux psaumes tirés de son expérience, notamment de ses combats, mais aussi des moments de sa vie peut-être difficiles. Il a eu des hauts, il a eu des bas, et il a composé des psaumes extraordinaires. Mais notamment, il a accompli des exploits contre de nombreux ennemis. Psaume 60, verset 14, un extrait d'un psaume que nous connaissons. « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Et lorsqu'il écrit ces psaumes, il a vécu des victoires avec Dieu. Il a accompli des exploits pour Dieu, alors même que tout était défavorable, que tout était contre lui. Eh bien, il met Dieu en premier et il dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Même si son armée était moins forte que l'armée adverse, il mettait Dieu en premier et il savait que les exploits étaient possibles. Même s'il était le plus jeune de ses frères, il mettait Dieu en premier. Et il était utilisé par Dieu. Dieu était avec lui. Pourquoi ? Pourquoi Dieu était si présent dans la vie de David ? Parce que David cherchait la face de Dieu continuellement. Il aimait sa présence. Et c'est Dieu qui lui donnait du succès parce qu'il payait le prix de la recherche de la face de Dieu. Dans un psaume, il dit « Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. » Donc, il avait cette faim, cette soif de la présence de Dieu. Et le Seigneur l'a conduit de victoire en victoire, jusqu'à confronter ce géant Goliath que nous connaissons. Mais, avant d'arriver jusqu'à Goliath, il y a eu des tests dans la vie de David, parce que Goliath, c'était vraiment la victoire qui a été décisive pour un tournant. Il y a des fois des victoires dans nos vies qui vont être des tournants décisifs. Mais avant d'arriver à cette victoire-là, il y avait un certain nombre de tests qu'il a fallu passer. J'aimerais voir 5 tests par lesquels David est passé avant d'arriver jusqu'à la victoire sur Goliath. Le premier test, je l'appelle le test de l'humilité. C'est le verset que nous venons de lire. Car il faut se rappeler que David a déjà été oint par Samuel pour être le remplaçant de Saül, donc il sait qu'il va régner, il sait qu'il a déjà l'onction, il pourrait déjà revendiquer le règne, il a des promesses de Dieu sur sa vie, donc c'est bon. Bon, il pourrait laisser tomber son travail de berger et vivre déjà dans la royauté. Et en plus, le roi lui a ouvert la porte pour qu'il vienne jusqu'au palais. David avait été repéré parce qu'il jouait bien de la musique, il y avait une onction. Ça apaisait le roi qui était sous l'influence d'un mauvais esprit. Quand David jouait, l'esprit se retirait de Saül. Donc, il avait eu accès à la cour du roi. Par contre, ses frères, en parallèle, ont été engagés dans l'armée du roi, donc les 3 frères aînés. Ils sont au combat pour l'Éternel, ils font des choses pour Dieu. David aurait pu en ressentir de la jalousie parce que lui, il était cantonné dans les tâches secondaires, il portait les armes de Saül. Et puis, à un moment donné, Saül l'a renvoyé chez son père. Donc, David aurait pu être jaloux et se dire, mais pourquoi mes frères sont au combat et moi, je suis en retrait parce qu'il voulait faire des choses pour Dieu. Et en fait, il est testé, il ne le sait pas, mais il est testé sur le plan de l'humilité. 1 Pierre 5, 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenu. David savait, il avait compris ce principe, que ce n'est pas lui qui va forcer une porte, mais s'humiliant devant Dieu, c'est Dieu qui allait lui tracer le chemin. Et ça, c'est une grande leçon. Parce que combien trébuchent parce qu'ils veulent faire des choses, ils veulent se mettre en avant, ils veulent les premières places, alors que ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le moment et Dieu ne l'a pas prévu comme cela. Ils ne se sont pas humiliés. David a compris que ce n'était pas encore le temps du règne, c'était le temps de la soumission à son père. Et ce temps-là, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps qu'il va mettre à profit pour développer encore son caractère. Pendant ce temps, il va être dépouillé de l'orgueil. Et simplement, il va se mettre au service de son père. Quelle humilité, quelqu'un qui est oint, quelqu'un qui a une destinée royale sur sa vie, eh bien, il fait simplement ce qu'on lui dit et il retourne chez son père alors qu'il avait eu accès au palais. Ça, c'est le premier test, humilité. Deuxième test, on peut lire le verset 16 jusqu'au verset 19. Le Philistin avançait matin et soir, c'est le test de l'obéissance, deuxième test. Et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et 10 pains et cours au camp vers tes frères, porte aussi 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. » Ici, c'est un deuxième test par lequel David passe, c'est maintenant l'obéissance à son père. Parce que il a reçu l'autorité de régner, il a cette onction qui est sur lui, mais son père lui demande des petits services dignes d'un serviteur, mais pas d'un roi. Il reçoit des ordres, tu vas porter à tes frères des grains rôtis, du fromage, des pains. Voilà. Normalement, c'est David, avec cette promesse qu'il a reçue sur sa vie, qui devrait diriger, qui devrait être servi, mais il va obéir à son père et se mettre au service de son père, malgré les grandes révélations qu'il a eues. Dieu le teste. On va voir s'il va être soumis à son père. Pourquoi ? Parce que celui qui n'est pas soumis à son supérieur, il n'aura pas d'autorité pour faire des choses pour lui. L'autorité est reliée à la soumission. Voyez Matthieu chapitre 8, verset 9. On a l'exemple ici d'un homme qui était dans l'armée. Donc l'armée, c'est régi par des grades. Il y a toujours des supérieurs, il faut se soumettre. Et ce soldat a compris que Jésus peut tout faire à distance. Il dit, moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, et il va, à l'autre vient, et il vient, à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Et à partir de là, il déduit que Jésus peut dire un seul mot, dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il en a déduit donc l'autorité qu'a le Seigneur Jésus par rapport à sa propre vie, à la fois de soumission à ses supérieurs, mais d'autorité en tant que supérieur par rapport à des subalternes. Mais quand on veut diriger et qu'on n'a pas compris la soumission, on ne peut pas diriger correctement. Donc David est passé par le test de l'obéissance. Il a scrupuleusement obéi aux injonctions de son père, bien que il aurait pu dire « Moi, c'est bon, j'ai l'onction, j'ai la destinée royale, j'arrête ses services, après tout, c'est moi qui serai le prochain roi. » Ça voudrait dire qu'il ne respectait pas son père, qu'il ne se soumettait pas à son père, mais il n'aurait pas pu être utilisé par Dieu. Quand on veut passer par-dessus les principes spirituels que Dieu a établis dans sa parole, vous allez remarquer que vous allez trébucher et vous n'atteindrez pas l'objectif. Dieu voit notre attitude. Il a vu chez David une obéissance, une soumission à son père. Et ça, ça a plu à Dieu, parce que celui qui est soumis à ses parents, donc qui respecte les autorités, ou qui est soumis aux autorités spirituelles, eh bien Dieu lui confie de plus grandes responsabilités. David reconnaissait qu'il était encore sous l'autorité de son père, malgré qu'il avait sur sa vie un plan de Dieu élevé. Et il se soumettait. Vous voyez, il n'était pas orgueilleux. Il avait un respect pour son père. Colossiens 3:20, c'est un principe biblique. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. La soumission, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Ça plaît sur le plan naturel de la famille, mais c'est vrai sur le plan spirituel. Parce que l'Église, c'est une organisation avec des ministères, mais aussi il y a aussi des anciens, il y a des diacres, il y a toutes sortes de fonctions. Eh bien, tout cela est coordonné dans le respect et la soumission. Eh bien, cette soumission, quand on se soumet, qu'on a compris le principe de l'autorité, c'est agréable au Seigneur. Et quand David se soumet à son père, ça plaît à Dieu. En fait, en se soumettant à son père, il se soumet à la volonté de Dieu. Il a compris. S'il avait été rebelle à ses parents, il serait resté à ce niveau-là. Dieu nous teste. Et tant qu'il n'aurait pas passé ce cap-là, tant qu'il n'aurait pas accepté de se soumettre à son père, il serait resté à cet environnement, il n'aurait pas pu passer à l'étape suivante. Donc il l'a franchi. Et d'ailleurs, c'est en obéissant à son père, et remarquez comment Dieu nous conduit finalement, son père lui donne un ordre d'aller voir ses frères sur le champ de bataille, mais simplement, il lui demande quelque chose de très simple. Tu vas porter des pains, des fromages et des grains rôtis. C'est tout. Mais c'est en obéissant à ce simple ordre qui est banal, qui paraît sans importance et même insignifiant, c'est grâce à cette obéissance qu'il va se retrouver au bon endroit où Dieu le veut, c'est-à-dire proche de la confrontation avec Goliath. C'est là qu'il fallait qu'il... Mais si on refuse l'humilité, l'obéissance, eh bien on ne va pas se retrouver à l'endroit que Dieu veut, et finalement on va manquer le but. Et parce que Dieu savait que David devait être sur le champ de bataille pour confronter Goliath. Alors David ne le savait pas, il ne savait pas qu'il allait confronter Goliath à ce moment-là, mais lui, il va simplement porter la nourriture. Vous voyez, c'est un petit service, comme on demande quelquefois, tu peux me rendre ce petit service. Mais en rendant ce petit service, Dieu l'utilise pour l'amener exactement là où il faut. Et il y a des grands services derrière les petits services. Pour ça, ne négligeons pas les petits services, mais soyons prompts à faire les petites choses que Dieu nous confie. Et par la suite, David a conservé ce principe de soumission et de respect, car bien qu'étant oint par Dieu, il a toujours considéré que c'était Saül loin de l'Éternel. C'est quelque chose de particulier chez Saül, avec toutes les difficultés qui environnaient Saül et même sa méchanceté à l'égard de David. Tout au long de ses périples où il était chassé, où il devait se cacher, il disait toujours « Je ne mettrai pas la main sur loin de l'Éternel ». Un respect pour l'autorité que Dieu a désignée. C'est quelque chose qui était en lui, qu'il habitait, ce respect pour l'autorité. Et ça, il avait compris spirituellement que c'était la volonté de Dieu. Donc, deuxième élément, c'est maintenant le test de l'obéissance. Alors, un petit service, quelquefois on dit « Homme, je ne vais quand même pas faire ce petit service. C'est inutile, on va demander à quelqu'un d'autre. » Non, il l'a fait lui-même et il a bien fait. Troisième test, c'est maintenant le test du combat contre la chair. Le combat contre la chair. 1 Samuel 17, verset 28, jusqu'au verset 30. Le verset 28 dit ceci. Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions, le peuple lui répondit comme la première fois. Et ici, donc quand il amène la nourriture que son père lui a confiée, il est confronté à Éliab, le frère aîné, qui lui est rempli de jalousie. Bien que croyant, il entretient de la jalousie. Il n'a jamais accepté que Dieu ait choisi David. Et c'est ainsi, le monde est ainsi fait, qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter ce que Dieu vous a donné ou qui vont être contre vous. Vous savez pas, vous comprenez pas pourquoi. C'est un test. David aurait pu lutter contre son frère, entrer dans un conflit. C'est ce qu'on appelle la lutte contre la chair. La chair. Mais il n'est pas allé dans cette direction. Éliab, même, aurait pu détourner David du vrai combat, parce que le combat, il n'était pas charnel. Le combat n'était pas contre Éliab. Le combat, il était derrière contre un autre. C'était contre Goliath. Mais si David était rentré dans ce combat contre son frère, qu'il avait mis son énergie à se battre, à se défendre, à se justifier, bien il serait tombé dans un combat humain, le combat la chair. Il aurait pu argumenter avec lui, se battre avec lui, et finalement il aurait manqué le vrai et bon combat qu'il attendait. Et c'était un test. Ici, c'était pas le bon combat. C'était un faux combat qu'il ne fallait pas mener. Et David l'a compris. Et regardez ce que dit le texte. Il n'a pas mis de l'huile sur le feu. Il a laissé là son frère et il est allé vers un autre. Il n'a pas donné suite à ce conflit. Et c'est là où on voit que beaucoup de chrétiens y mènent des combats, mais alors des combats complètement à côté du combat de Dieu. Des combats contre la chair, des disputes, des dissensions, des désaccords, des conflits, ils se tirent dessus, ils se détruisent les uns les autres, et donc ils manquent le combat que Dieu veut pour eux. C'est un combat autre, c'est le combat contre Goliath. Regardez Galates 5.15, comme c'était le cas de cette église de Galatie. « Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Qu'est-ce que font ces chrétiens de Galates? Ils mènent un combat contre la chair. Ils se battent entre eux. Ils se disputent. Ils s'en veulent. Et ils passent une énergie considérable dans un combat qui n'est pas bon. Et puis, certains sont habités par ce combat. Au matin, au réveil, ils pensent au mal qu'on leur a fait et comment ils pourraient se venger. Le midi, ils réfléchissent comment ils pourraient encore régler leur compte. Le soir, ils y pensent aller poursuivre la nuit. Ils dorment là-dessus. Et finalement, ils sont pas prêts pour le bon combat. Ils sont épuisés par les combats contre la chair. Alors qu'il y a un combat de la foi. Et David est pas tombé dans ce piège. Vous voyez, un autre test, c'est le test du combat inutile, combat contre la chair, qui aurait fait dévier David dans une autre direction. On arrive au quatrième test, c'est au verset 38 à 39. C'est maintenant le test de l'armure de Saül. Saül fit mettre ses vêtements à David, il le plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. David est conduit devant Saül parce que il a donné des paroles d'encouragement en disant mais comment on laisse ce géant insulter le peuple de Dieu? Moi, j'irai me battre avec lui. Et lorsque David est conduit devant Saül, la première remarque, c'est de le dissuader d'aller au combat. Il lui dit, mais toi, tu es un enfant. Lui, Goliath, c'est un homme de guerre. Tu ne peux pas y aller. Donc le roi parle quand même. En réalité, David pouvait y aller parce que l'Esprit de l'Éternel était avec lui. Mais le roi finit par accepter et lui dit « Va et que l'Éternel soit avec toi ». Et en fait, David avait vraiment besoin de la présence de Dieu avec lui. Mais Saül rajoute quelque chose et il dit « Tu vas y aller, mais tu vas porter mon armure ». Et c'est là où on est testé encore à nouveau. Donc, il s'approche finalement du plan de Dieu, Mais pour aller vers le plan de Dieu, il y a quand même des pièges. Et le piège ici, c'est l'armure de Saül. L'idée de Saül, c'est que si David porte cette armure, au moins, il sera mieux protégé en cas de coup. Mais l'armure n'est pas à sa taille. L'armure ne lui correspond pas, c'est l'armure d'un autre. Elle est bien pour Saül. David n'est pas habitué à une armure. Ça ne colle pas. Et là, il faut sentir que malgré le conseil, malgré l'avis du roi qui est loin de l'Éternel, David choisit de faire autrement. Eh bien, il a fait la bonne chose, c'est qu'il s'est débarrassé de cette armure. Et ça, c'est maintenant notre responsabilité en tant que chrétien. On a bien la direction de Dieu, il faut y aller, mais il y a des conseils qui peuvent être comme des boulets à vos pieds et qui vont vous freiner. Et donc, il faut discerner, parmi tous les conseils qui viennent, ceux qui sont inspirés et ceux qui ne le sont pas. Le conseil de Saül n'était pas inspiré. Il n'était pas de Dieu. C'était un nouveau test. C'était un test de porter l'armure d'un autre. Il ne fallait pas tomber dans ce piège. Alors, c'est une image pour nous parler, bien, que nous pouvons nous revêtir d'armures humaines qui vont être pour nous un fardeau. Elles ne vont pas être d'un grand secours. Elles vont plutôt nous écraser que nous aider. Et ces choses-là, nous devons nous en débarrasser. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 10, 14, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » On peut dire que les armes de Saül étaient charnelles. Elles étaient humaines, elles étaient terrestres. Mais David a compris qu'il ne fallait pas porter des armes charnelles sur lui, mais plutôt rechercher les armes spirituelles. Et comment a-t-il fait ? Eh bien, c'est dans la foi. Il a cherché dans la prière, il a cherché dans les promesses de Dieu. Et en fait, avec ça, il avait tout. La foi, la prière, la parole de Dieu. On n'a pas besoin de plus, mais il nous faut pas moins. Ce sont nos armes. Les armes de Saül étaient un poids humain. Ces armes l'auraient entraîné à la défaite. Mais les armes de Dieu sont spirituelles, elles nous entraînent à la victoire. À nous de les discerner, à nous de les prendre et de ne pas accepter des poids qui vont nous freiner dans la marche chrétienne. Je termine avec un dernier test au verset 40. C'est maintenant le test de la préparation au combat, c'est l'ultime moment. Verset 40, voilà ce que fait David. Il prit en main son bâton, choisit dans le terrain 5 pierres polies, les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Dernier test, c'est celui de la préparation dans le secret. David est seul. Il sait que Dieu est avec lui, mais il prend le temps de passer un moment dans la présence de Dieu, auprès du torrent. Et c'est là qu'il va recevoir la stratégie et la manière d'opérer. C'est le test de la préparation, à l'écoute de Dieu. David reçoit comme ça, il faut prendre ton bâton, il faut prendre ta fronde, il faut prendre 5 pierres. Et tout ça, il va se laisser conduire par Dieu. Ça n'a pas de sens sur le plan stratégie humaine, mais c'est une bonne manière de faire sur le plan spirituel. Il y a une part de préparation qui est dans le lieu secret. C'est quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous cherchons sa face, nous prions, nous méditons la parole, nous nous isolons des problèmes de cette terre, nous cherchons à mieux percer la pensée de Dieu, ses secrets qu'il veut révéler. Et c'est dans cette préparation, en fait, que le combat se joue, et finalement que le combat est déjà gagné, parce que la présence de Dieu en lui lui donne cette force. Et quand David arrive sur le terrain, oui, il va utiliser sa fronde, mais en réalité, Dieu est avec lui. La victoire est déjà remportée. Quand vous êtes dans ce lieu secret, dans la prière de la foi, on peut dire que David s'avance, mais il est déjà dans la victoire. Si bien que la suite du récit montre que David va courir contre Goliath, tandis que Goliath, lui, il marche. Mais David, il court. La victoire est déjà en lui. Éphésiens 5, 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Dans le lieu secret, il y a des victoires qui sont remportées dans la louange, la reconnaissance, des actions de grâce. Dieu combat pour nous et l'œuvre de Dieu se fait. Alors on a parfois l'impression d'être comme dans le brouillard. Un tel vous conseille ceci, un tel vous conseille cela. Mais ces conseils peuvent être des boulets et des freins dans votre avancée. On ne sait plus quoi faire. Faites comme David, isolez-vous, prenez le temps de méditer et de chercher sa face et de recevoir son conseil. De recevoir dans votre cœur la voix, les cinq pierres, la fronde, le bâton. Et en réalité, quand David confronte Goliath, une seule pierre a suffi. Mais Dieu lui avait dit de prendre cinq pierres. Vous voyez, il a obéi. Et simplement, il faut faire ce que Dieu dit. Et en réalité, une seule pierre a suffi pour terrasser ce géant. Donc on voit bien que Dieu était à l'œuvre dans la vie de David, parce que tout cela, c'était impossible à réaliser humainement. Nous savons tous comment David a triomphé de ce géant Goliath, mais nous oublions tous les tests par lesquels il est passé, et s'il avait échoué à un seul de ces tests, il n'aurait pas eu la victoire. Quelquefois, on focalise sur le moment de la victoire, mais en réalité, la victoire se prépare en amont par ces étapes qui sont déjà des victoires qui vous préparent à la grande victoire. C'est pareil pour nous. Il y a des tests sur notre route, l'obéissance, l'humilité, vaincre la chair, les combats de la chair inutiles. Si vous vous perdez dans des combats de la chair inutiles, vous n'arriverez pas au bout. Portez l'armure d'un autre, écoutez les conseils qui vous détournent du plan de Dieu, la préparation dans le lieu secret. Tout cela, ce sont des tests que nous connaissons. Et est-ce qu'on va abandonner? Est-ce qu'on va écouter Dieu? Est-ce qu'on va se laisser décourager? Bien, faisons comme David et continuons à avancer en faisant confiance dans notre Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour l'exemple de David qui a surmonté tous les tests qui ont été mis sur sa route, et nous voyons combien il a été fidèle, même fidèle dans les petites choses, et tu lui en as confié de plus grandes. Merci pour cet exemple d'humilité, alors qu'il était oint, qu'il aurait pu déjà avoir la grosse tête et se sentir comme un roi, et qu'il a accepté les petits services, et qu'il a obéi, qu'il s'est soumis à son propre père. Seigneur, c'est encore un exemple pour nous de soumission aux autorités spirituelles que tu as instituées. Merci pour cette consécration et sa volonté de ne pas tomber dans le piège des combats inutiles, ces combats contre les uns, contre les autres, qui font perdre du temps, qui gaspillent l'énergie, qui nous égarent, Seigneur, loin de ta volonté. Et merci, Seigneur, pour son discernement. Donne-nous ce discernement de ne pas écouter les conseils qui vont être comme des boulets à nos pieds, qui vont, comme l'armure de Saül, être un fardeau, alors que nous n'en avons pas besoin, mais de chercher dans ta présence, dans l'isolement, dans ce temps de cœur à cœur, ce temps de communion, de chercher ta pensée pour aller avec les armes que toi tu veux, ces armes qui sont spirituelles, mais qui nous permettent de renverser des forteresses, qui nous permettent de voir ces géants s'effondrer. Oui, dans le nom de Jésus, encourage-nous, Seigneur, à garder cette bonne vision et à ne pas nous égarer dans des combats de ce monde qui sont loin de ta pensée, et que nous puissions combattre le bon combat de la foi et être des serviteurs utiles en ta maison. Dans le nom de Jésus, Amen.